prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, je te suivrai partout.
Une lecture dans l'évangile de Luc, si vous voulez bien suivre. On va ouvrir, méditer ce passage, donc dans l'évangile de Luc. Il s'agit du chapitre 9. Alors, Luc, chapitre 9. Verset 57, s'il vous plaît, ce sera simplement ce petit paragraphe que Jésus nous laisse en guise de réflexion cet après-midi. Et verset 57, il est dit ceci. « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà pour cette situation biblique. Jésus nous met en face des choix. Et des choix, il en a tous les jours à faire. Il y a des choix qui sont en effet sans grande importance, mais il y a des choix qui sont beaucoup plus conséquents. Et nous avons dans cette... ce petit message, un appel qui se décline sous différentes formes, mais un appel quand même. Et voyez-vous, je crois que, contrairement aux usages des hommes et à la manière de faire des hommes, Jésus ne fait pas un appel comme peut-être on sollicite des hommes à adhérer à une association, à un mouvement, à une politique, c'est tous les jours où on essaie de travailler un petit peu là. Le suffrage des gens, ce n'est même pas un appel à rentrer en religion. Parce qu'il ne s'agit pas d'une pensée, il ne s'agit pas d'un système, il ne s'agit pas de quelque chose qui, ce que nous connaissons le plus souvent dans les usages, mais il s'agit de suivre une personne, et ça c'est autre chose. Une personne dont je rappellerai tout simplement ce qu'il a dit de lui-même, « Je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie ». Alors ça change tout, c'est tout un autre programme que de participer à un effort pour faire avancer une idée ou une politique ou autre chose. Ça n'a rien à voir non plus avec une démarche religieuse, ça implique bien des choses que Jésus nous explique. Vous avez remarqué avec moi, il y a trois hommes qui correspondent à trois appels au salut et avec trois réactions différentes. Et c'est intéressant. Le premier homme dont nous avons lu l'histoire caractérise l'engagement précipité, ou si vous voulez par là, l'irréflexion. Cet homme dit à Jésus, simplement, « Je te suivrai partout où tu iras ». Donc il y a la précipitation, il ne réfléchit pas, et il dit, tu sais Seigneur, j'irai là, où tu me conduiras, je suis prêt à te suivre n'importe où. Le deuxième personnage caractérise le choix face aux priorités. Puisque cet homme dira à Jésus, parce que c'est Jésus qui l'appelle, on y reviendra tout à l'heure, mais Jésus lui dit, viens et suis-moi, et lui va mettre en quelque sorte un bémol, si vous permettez l'expression, une réserve à ce que Jésus lui demande, il lui dit, « Permets-moi d'abord. » Donc il n'est pas prêt. Et puis notre troisième et dernier personnage, c'est l'engagement assorti de conditions. Il veut bien, Il a entendu, il a bien compris, mais il met des conditions, c'est-à-dire « je te suivrai, mais à la condition de ceci ou de cela ». Le verset 57 que nous relisons, il est dit ceci, « pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, donc c'est ce personnage qui prend les devants, et il proclame en lui disant ceci, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Voilà ce qu'il nous est présenté. Jésus est en route sur un chemin qui va le conduire dans peu de temps à mourir sur la croix. Et ça, cet homme ne le sait pas. Il ne peut pas l'imaginer que l'aboutissement, quand on suit Jésus, eh bien, c'est suivre finalement un chemin qui aboutit au sacrifice. Parce que c'est bien cela. Et l'homme, certainement, devait être plein d'enthousiasme pour la personne de Jésus, en raison probablement de ses paroles, en raison de ses miracles. Il se dit, voilà, ça c'est l'occasion de ma vie, hein, c'est probablement le Messie, c'est un homme extraordinaire, il fait des choses extraordinaires, alors moi je m'attache à lui, parce qu'il fait des miracles, parce que c'est un homme qui a des pouvoirs surnaturels, et quand on entend ses paroles, alors cet homme est enthousiasmé. Il est complètement bouleversé de ce que Jésus lui laisse comme impression, et il fait cette affirmation téméraire. Elle est téméraire, assurément, puisqu'il dira « Je te suivrai partout où tu iras ». Mais Jésus n'a pas donné son programme encore. On l'a vu il y a un instant, il n'a pas dit. Et comme finalement, il en est de même pour tous les hommes qui, à un moment ou à un autre, ont une aspiration à vivre pour Jésus, à suivre Jésus, à servir ou à obéir à Jésus, le programme, en ce qui nous concerne, n'est jamais clairement défini. On sait qu'il y a ceci et cela, mais on ne sait pas tout. Alors, on peut parler d'enthousiasme, d'effervescence même, une effervescence peut-être à caractère religieux chez ce personnage, mais cette effervescence et cet enthousiasme n'a rien à voir, il faut le signaler, avec la vraie foi que Jésus réclame pour le suivre. C'est une autre nature. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec un engagement comme les hommes le proposent. L'engagement pour suivre Jésus, c'est ni un coup de foudre, ni un coup de cœur. Cela demande une réflexion. Cela demande, comme Jésus le dira à un moment donné, à en calculer la dépense. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein ? Calculer la dépense. Et c'est vrai que beaucoup de gens, parfois, dans le contexte de l'Évangile, le contexte, on pourrait peut-être ajouter, religieux, avec tout ce que cela peut comporter, les témoignages de miracles, hein, la musique, hein, la liberté que nous avons dans cette vie, dans ce contexte, hein, une atmosphère de piété que les gens ressentent. L'emballement, peut-être, parce qu'on entend une nouvelle qui est pour la première fois, eh bien, on n'a jamais entendu ça, et on se dit, c'est merveilleux, et Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Eh bien, nous voyons que cela ne doit pas être le produit de la nouveauté, notre choix, ou de l'extraordinaire, ni même, parfois, l'emballement des sentiments, parce que c'est pas seulement ça, la foi. Et suivre Jésus, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas l'emballement, ce n'est pas une fièvre qui arrive comme cela, c'est autre chose. Je rappellerai le principe, hein, la foi, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais réellement ce que l'on croit au fond de notre cœur. Ça, ce sont des bases. On pourrait appeler ça, si vous voulez, des vérités fondamentales de l'Évangile. Et ça, il faut le dire. Il y a des gens qui, quelquefois, sont passés dans nos réunions, et en raison d'un message, ou en raison d'un chant, ou en raison d'un témoignage, ou peut-être même de l'accueil ou de la communion fraternelle, les gens sont bouleversés en disant, ben voilà, ça c'est mon église maintenant. Hein? Et souvent, on l'a remarqué, les gens qui nous disent, eh bien voilà, j'ai été touché aujourd'hui, je veux bien croire que ça arrive, hein, et c'était notre expérience. Et souvent quand ils nous disent, vous savez maintenant, vous pouvez me compter dans vos membres, hein, vous me verrez tous les dimanches ou toutes les réunions. Souvent, on ne les revoit plus du tout. ça fait partie de l'effervescence de toutes ces choses, et ça, c'est la caractéristique de ce premier homme. Vous savez, des exemples d'emballement, Jésus le donnera dans le cas, par exemple, de la semence qui est répandue par, le laboureur, le cultivateur, il nous dit qu'elle pousse tout de suite. parce qu'elle ne trouve pas un sol profond, parce qu'il y a de l'humilité, de l'humidité. Et ensuite, eh bien là, des conditions sont rassemblées et elle va pousser très vite. Mais néanmoins, elle va flétrir très rapidement aussi parce que en dessous, c'est un sol rocailleux. Vous comprenez ? Ça, c'est l'emballement. Jésus l'a dit plusieurs fois et sous différentes formes. Et puis regardez, souvenez-vous du jeune homme riche. Il se précipite, il vient certainement de très loin. Il entend parler de Jésus comme celui-là, celui dont nous parlons. Il va s'approcher et il va se mettre à ses genoux. Il accourt, se prosterne devant Jésus en disant, « Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Et puis, Jésus va lui dire, il va lui dire certaines choses. Il va marquer le fait qu'il y a aussi de sa part un sacrifice, que l'engagement n'est pas quelque chose, eh bien là, de passager, de superficiel, c'est quelque chose de sérieux. Et à un moment donné, il nous est dit que cet homme, ayant entendu la proposition, l'invitation de Jésus, eh bien il s'est retourné, il est reparti tout triste, parce qu'il ne pouvait pas, tout simplement, il ne pouvait pas. Alors, je dirais, suivre Jésus à ses exigences. Jésus lui répond, à ce premier personnage, il lui répond ceci. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » De toute manière, même quelles que soient les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui n'ont pas toujours été dans l'histoire du christianisme, mais suivre Jésus, c'est néanmoins une vie par la foi. Quoi qu'il en soit. Quand on a bien compris cela, dans un domaine ou dans un autre, ça a été particulièrement marqué dans des époques cruciales, cruelles, qu'a connu le christianisme. S'engager pour Jésus, comme aujourd'hui dans certains pays, c'est vraiment s'engager de perdre sa vie à un moment ou à un autre. Eh oui, nous on ne connaît pas ça, mais il fut un temps où notre pays a été ensanglanté par... finalement, toutes sortes de choses abominables, et confesser Jésus-Christ, lire la Bible, eh bien, c'était véritablement un engagement qui avait tout son sens, et quelque chose, donc, qui impliquait de vivre par la foi. Ça devrait l'être, dans une certaine mesure, non, que nous allions renier la grâce que Dieu nous fait de vivre en paix, de vivre dans un pays où il y a une tolérance spirituelle ou religieuse, hein, une liberté de conscience, mais d'une manière ou d'une autre, la réaction est toujours à la base la même pour nous. On vit et on dépend de Jésus, c'est vivre par la foi. Il semblerait que dans les facilités de notre temps, il y en a de moins en moins qui veulent s'engager. Et que peut-être par ailleurs, dans d'autres difficultés où il y avait vraiment un danger, une menace, un péril, les gens s'engageaient. C'est quand même assez paradoxal ça. Mais c'est quand même marqué par la vie, par la foi. Un engagement pour Jésus suppose un renoncement moral par rapport à nos habitudes, par rapport à nos manières d'être, notre vie passée, par rapport au mal, naturellement, hein, ce que l'on appelle communément le péché, et par rapport à notre égoïsme. Ce n'est plus notre petite personne qui va être servie en premier, mais c'est Jésus qui va avoir la prééminence. C'est un abandon de certaines choses, dans certains cas. On va le voir dans la deuxième proposition. Quelquefois, c'est notre bien-être, c'est les privations, c'est toutes sortes de choses. Surtout que quand il y a un appel à un service particulier, que ce soit le ministère pastoral, mais je pense particulièrement à ces familles qui partent en mission dans des pays étrangers, avec, on pourrait dire, armes et bagages, enfin la Bible et puis tout le reste, et qui font une croix sur leur situation là et qui partent. Ça peut être payé de tribulations, de persécutions, de railleries, toutes sortes de choses. Donc ce n'est pas nous qui avons la priorité, il faut avaler tout cela. Quand on se moque de votre foi, quand on se moque de vos principes, tout ça, ça fait partie justement de... Jésus lui dit, hein, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel, ils ont tout ce qu'il faut, mais celui qui veut me suivre, eh bien, peut-être que ça ne lui sera pas assuré, je dis bien assuré, définitivement. L'engagement de la vie chrétienne, nous rapporte Jésus, ne doit pas être pris à la légère. C'est une chose, comme ce texte tend à nous le montrer, une chose sérieuse qui réclame mûre réflexion. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre parabole, c'est une parabole que Jésus donnera, dans l'histoire de celui qui construit une tour et de celui qui part à la guerre. Quand on construit une tour, il faut la finir. Quand on part à la guerre, on ne sait pas si on va revenir. Et je pense que s'engager pour Jésus, c'est une construction, c'est une édification, c'est une aventure. Partir à la guerre, c'est aussi quelque chose qui a également ses risques. Et il faut réfléchir naturellement avant. Réfléchir avant parce que l'aventure est périlleuse. Il n'y a pas de précipitation comme cet homme. Je te suivrai partout où iras, tu peux compter sur moi. Alors il faut réfléchir. Et ce genre de questions n'est pas des questions. C'est pas du genre de questions qui seraient déplacées. Que perd-on? Que gagne-t-on? Je vous dirais que Pierre l'avait posé à Jésus dans un moment. Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons renoncé à ceci, nous avons laissé cela, etc. Alors, qu'est-ce qu'il adviendra de nous? Jésus va lui répondre. Et je crois que quand il y a à la base un engagement, une décision, où il y a eu ce genre de questions qui ont été posées à l'avance, je pense que la personne qui s'engage sait ce qu'elle fait et elle est beaucoup plus à même de résister aux tentations, aux combats et aux luttes sans baisser les bras. C'est notre démarche dans l'engagement pour le baptême. Nous avons cette façon de voir les choses qu'on pourrait baptiser les gens dès qu'ils confessent Jésus, en disant « Voilà, je crois en Jésus, vous croyez-vous en Jésus ?» Ils vont répondre « Oui », et les baptiser aussitôt. Je pense que derrière cela, l'expérience a montré qu'il fallait qu'il y ait un petit peu plus de racines. Alors, les gens viennent, ils entendent l'Évangile, ils reviennent, ils entendent à nouveau l'Évangile, ils prennent contact avec d'autres gens d'expérience dans la vie spirituelle, et puis ils se construisent, et puis on leur donne aussi une réflexion qui s'appelle tout simplement l'engagement au baptême. Alors, ils réfléchissent à tout ça, et puis ils pèsent. Et le plus souvent, les gens, après avoir réfléchi pendant quelques semaines, peut-être voire quelques mois, eh bien... Après, ils savent ce qu'ils vont faire en connaissance de cause. Ils vont pouvoir finalement se décider. Alors, face à l'appel de l'Évangile, puisqu'il est bien question de cela, ils font non arrêter certains, mais les avertir, les prévenir pour les amener à considérer posément l'importance de l'engagement, de leur engagement. Parce que, croyez bien que quand Jésus nous appelle, c'est un engagement... de persévérance, c'est un engagement à vie et de fidélité. On ne suit pas Jésus pour dire, eh bien voilà, demain si ça ne marche pas, j'abandonne tout. C'est un peu le problème de notre monde d'aujourd'hui, où les gens s'engagent dans d'autres domaines que sur le plan spirituel, et ils partent déjà à l'idée, et je pense notamment à la question de l'engagement de deux êtres, qui s'unissent, ça s'appelle tout simplement le mariage, qui est une institution de Dieu. Et c'est quand même assez curieux, c'est que il y a toujours là une réflexion préalable négative en disant « nous nous marions, mais si ça ne marche pas, nous allons divorcer ». C'est quand même assez troublant cela, parce que si ça n'engageait que deux personnes, mais malheureusement, quelquefois, ça engage beaucoup plus que deux personnes. C'est cela que Jésus veut prévenir, aussi dans notre engagement conséquent de chrétien. Spontanéité, oui, c'est vrai, cet homme est spontané, mais suivi de persévérance, parce que la marche chrétienne, c'est une course d'endurance. Eh oui, ça peut durer des années, ça peut durer des décennies, ça va jusqu'à la mort, n'hésitons pas à le dire. Sinon, il y aura, comme Jésus l'évoque dans d'autres passages, il y aura des reniements. Il y aura de la tiédeur, il y aura de l'abattement, du découragement, de la lassitude, et ça ne sera qu'un vernis de christianisme, ou tout simplement de l'athéisme pratique. Derrière, eh bien, une façade de christianisme, mais il n'y aura rien d'autre. Et ça, c'est quand même préjudiciable. Le premier cas, Jésus ne demandait rien, l'homme se propose, et il lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Maintenant, nous allons voir le deuxième personnage. Jésus l'invite à le suivre. C'est le contraire de la première proposition. Hein, quand on regarde et qu'on étudie le texte, c'est comme ça que ça se passe. Et au verset 59, hein, pour répondre à cela, il nous est simplement dit ces choses. À un autre, Jésus lui dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Jésus l'appelle, suis-moi, viens. Suivre Jésus implique la consécration, nous l'avons vu tout à l'heure, mais aussi le service pour tous en général, mais en particulier certains répondront à un ministère ou un service qui sera spécifique à la personne. Ça va plus loin que la première proposition. On peut suivre Jésus, très bien. On est un disciple, on fait ce que nous croyons devoir faire en nous appliquant à la parole de Dieu, naturellement. Mais le deuxième, c'est beaucoup plus important, c'est qu'il y a un appel. Il y a quelqu'un qui est appelé à suivre Jésus, quelqu'un qui va devenir disciple, mais quelqu'un qui va servir. Qui va servir, qui va donner sa vie d'une manière peut-être beaucoup plus particulière, plus marquée. Et Jésus de répondre tout simplement, « Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc, il s'agit tout simplement d'un appel au salut, un appel à servir pour dire aux autres ce qui va lui être confié, ou de rapporter aux autres ce qui va lui être confié. Et voilà que cet homme répond tout simplement à l'appel du Seigneur, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Alors là, c'est quand même assez curieux. C'est quand même assez particulier parce que Jésus, dans cette situation, aurait-il choisi un si mauvais moment, lui qui connaît tout, pour appeler cet homme? Jésus sait tout, hein. Et on pourrait s'interroger en disant, mais, ah ouais, c'est quand même dommage. Comment ça se fait que Jésus, eh bien, comme la réponse qui lui est donnée, au Seigneur, mais comment se fait-il qu'il appelle cet homme, puisqu'il a des obligations de grande nécessité? La vraie question serait la suivante. Écoutez bien, parce que je crois que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre. « Permets-moi, aurait pu dire cet homme, permets-moi d'abord d'assister mon père jusqu'à ces derniers moments, après j'irai. » Donc, je vais te suivre, Seigneur, mais j'irai plus tard. D'abord, mes affections légitimes, et toi ensuite. C'est toujours le Dieu après, ça. Comprenez? C'est pas le Dieu d'après, c'est le Dieu après. Il fait prévaloir, il laisse entendre que son père est moribond. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Et quelquefois, on peut se soustraire à l'appel sincère, l'appel pathétique du Seigneur ou l'appel solennel du Seigneur en disant « Mais c'est vrai, je suis prêt à aller où tu voudras, Seigneur, mais tu sais, il y a des choses dans ma propre famille » que je ne peux pas me défaire comme ça parce que je suis lié, tout simplement. Je ne peux pas faire. On s'aperçoit que le second personnage, celui dont nous parlons, fait partie de ces gens qu'il faut pousser à la décision. Comprenez? Le premier, il faut l'arrêter et lui dire « Réfléchis. T'as bien réfléchi. C'est bien. C'est bien de vouloir suivre Jésus, mais réfléchis. Va pas trop vite. » Celui-ci, c'est de lui dire « Écoute, il faut que tu ailles un petit peu plus loin. » Et Jésus, tout simplement, de dire à son interlocuteur, c'est quand même curieux, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Donc vous voyez qu'il y avait un ministère, il y avait un appel à être prédicateur, à être tout simplement un évangéliste. « Va annoncer le royaume de Dieu, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est passé en proverbe ça. Hein. Il faut pousser cet homme, il faut l'engager, il faut lui intimer l'ordre, il faut l'encourager, parce que c'est un indécis. Et aux indécis qui sont incapables de prendre seuls une décision, à tous ceux qui ont le cœur partagé, les hésitants et ceux qui tergiversent et qui ne prendront jamais de décision, il faut leur donner le petit coup de pouce. À l'un, il faut lui dire « entretiens », à l'autre, il faut lui dire « faut que tu y ailles ». Mais quand c'est Jésus qui le dit, lui, il ne se trompe pas. Nous, quand quelquefois, on fait parfois le contraire, à ceux qui voudraient calmer un petit peu, on leur dit « vas-y », et puis aux autres, ce serait peut-être différent. Alors, une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut sauver, mais il appartient à chacun, devant son appel, de choisir et de répondre résolument. Il y a des gens qui vont être là dans l'ambiguïté ou l'ambivalence pendant des semaines, pendant des jours, pendant des mois, et qui ne sauront jamais. On a des amis qu'on a connus, qui sont venus aux réunions, nous on a battu un record, hein. Elle est venue pendant 25 ans aux réunions. Bon, au bout de 25 ans, elle a pris la décision de se faire baptiser. Mais il faut quand même Un baptême tous les 25 ans, c'est pas mal. Enfin, heureusement, il y en a eu entre-temps. Mais c'est pour vous dire. Cette dame, je me souviens, elle venait tous les jeudis après-midi, elle était toujours là. Ah ça, si on avait une personne, on en avait une. Il n'y en avait plus une, mais enfin, je veux dire, elle prenait la parole et tout ça. Et ça, c'est quelque chose. On en a vu d'autres qui sont venus pendant des années, qui n'ont jamais pris l'engagement. Comme ça, ils sont restés, tout simplement. Alors, c'est vrai que ça fait de l'auditoire. Mais enfin, bon, le but, il n'est pas là, hein, de toute manière. Alors, c'est vrai qu'il faut que chacun se détermine. Ce n'est pas à nous de prendre la décision. Mais quelquefois, certains, il faut les encourager avec des paroles, avec peut-être les mots appropriés, comme Dieu nous conduira à leur dire, voilà, il faut peut-être maintenant que tu... Et il y en a qui ont besoin de cela. Alors, c'est ce que cet homme avait certainement besoin, parce que lui, il trouvait, dans son indécision, il trouvait le prétexte de dire, mais tu sais, moi j'ai mon père qui est très vieux, et je voudrais attendre que finalement, eh bien là, il disparaisse, et après je serai libre. Mais personne ne savait combien de temps encore le père allait vivre. Il pouvait vivre 10 ans, il pouvait vivre 20 ans, il pouvait vivre encore... Ça, personne ne le sait. Hein. Donc, c'est toujours le problème de cette tergiversation. Vous savez, il y a ce fameux récit que nous avons dans le livre des Rois, où il nous est dit qu'un jour, Élie s'est mis devant le peuple d'Israël, et il a dit ceci, « Mais jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Jusque à quand boiterez-vous ? Si c'est Dieu qui est Dieu, bah suivez Dieu !» Si vous croyez que c'est Baal qui est votre Dieu, bah suivez Baal, mais restez pas assis entre deux chaises. Voilà. Et il y en a certains qui ne sont jamais capables de prendre une décision. Alors ils vont trouver des arguments en disant, mais il y a ceci, il y a cela, pour se donner tout simplement, eh bien, là, un prétexte. Eh oui. Parce que là, on peut servir Baal, et vous savez que Baal, c'est le dieu des illusions. Et il peut nous mener... excusez-moi d'expression, mais il peut nous mener en bateau très très longtemps. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, faire un choix, c'est vraiment se déterminer, et ça, c'est important. Souvent, certains argumentent en disant « j'attends que Dieu fasse le pas ». Mais écoutez, mais le Seigneur l'a fait depuis longtemps, le pas. Il a fait la croix. Ça, c'est vraiment le pas. C'est le grand pas. C'est le grand saut. C'est la grande réponse que Dieu a donnée aux hommes. Alors, le faire d'abord et s'engager. Mes amis, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est fait. Mais si quelqu'un était peut-être dans la situation de ce deuxième personnage en disant « mais j'y vais ou j'y vais pas ?» Eh bien, moi je voudrais vous dire, c'est souvent ce qui prélude quelquefois les engagements au baptême, je leur dis « écoutez, si vous attendez que Dieu fasse le pas, ça y est, il l'a fait. C'est fait pour, par rapport à vous. Maintenant, faites-le et vous verrez que les choses vont se mettre en route. » Et souvent, il y a toutes sortes d'ambiguïtés, il y a une incompréhension. Et en disant, mais je m'engagerai quand le Seigneur aura résolu ce problème, lorsqu'il m'aura guéri, lorsqu'il aura fait ceci et cela, et ceci et cela. Et souvent, nous répondons de la manière suivante. Eh bien, engagez-vous d'abord et vous allez voir que Dieu va régler les problèmes. Et c'est ce qui se fait à chaque fois. Hein. Et c'est formidable, ça. C'est ce qui se fait à chaque fois. Dieu veut que nous démontrions notre foi et notre volonté, eh bien, aller un peu plus devant. Laisse les morts ensevelir les morts. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? C'est une explication au passage. Jésus parle dans ce texte des morts spirituelles. Oui, il y a les morts qui sont, ben, comme nous connaissons, hein. Mais il y a les morts spirituels, ceux qui n'ont aucune vie, aucune espérance, aucune foi en Dieu. Malheureusement, hélas, les plus nombreux. Les morts spirituels auront soin d'enterrer leur propre mort. Oui. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu, parce que ce royaume, c'est un message de vie. Et il y en a qui l'attendent. Voilà la grande différence. Celui qui vit sans Dieu est considéré comme un mort. Puisque cette vie, elle procède de la vie de l'esprit, donc de Dieu. Alors il y a là un grave problème de priorité, vous l'avez vu, un choix difficile, et qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur à nos yeux? C'est Dieu, ou ce sont nos affections, ou notre travail, ou nos biens? Qu'est-ce qui a le plus de valeur quand on a compris le sens de l'appel? C'est la vie ou la mort? Naturellement, on va opter pour la vie. Dans le livre du Deutéronome, c'est Dieu qui inspire Moïse à dire cela au peuple d'Israël. Il dira ceci d'une manière solennelle. « J'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Qu'est-ce que nous voulons ?» Et là, il va falloir choisir. « Seigneur, je ne sais pas. » Ben, on doit savoir ce qu'est une malédiction et une bénédiction. On sait ce que c'est que la vie et on sait ce que c'est que la mort. Et c'est pour ça que Dieu dira « Mais choisis la vie afin que tu vives. » Donc il y a une détermination. Priorité des priorités, c'est l'appel de Dieu dans la vie d'un homme. Ouais. L'appel de Dieu qui doit primer sur tout. Vous savez, quand il y a une menace de guerre dans un pays, quand il y a un conflit qui se prépare, la défense de la patrie n'est jamais discutée. Il faut y aller. Hein. Le soldat qui est convoqué, qui est mobilisé, il ne va pas se présenter devant le bureau du recrutement en disant « Mais j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai pas fini mon travail et je suis en train de faire ceci et cela. » On ne discute pas. Vous êtes mobilisé, vous prenez le fusil, vous prenez tout ce qu'il faut et vous allez au combat. Et on discute avec Dieu parce que la guerre, ça nous amène à la mort. Alors que le royaume de Dieu, ça nous amène à la vie. Et on discute sur la question de la vie. Troisième personnage, c'est le verset 61. Il est dit ceci, je le relis, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, ce que nous verrons en conclusion d'ici quelques instants. Je te suivrai Seigneur, mais la condition, on l'avait déjà définie tout à l'heure, permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Il y a une promesse. Seigneur, je ne discute pas ton appel. J'ai bien compris et je sais ce que tu veux pour moi. Je reçois ta promesse 5 sur 5, je suis d'accord, mais je veux bien à condition de. Et là, on rentre dans les prétextes, dans toutes sortes d'excuses. Et lui avait trouvé comme prétexte mettre en ordre ses affaires. Normalement, nos affaires, elles devraient être toujours en ordre. Hein? Mais il devait être peut-être désordre. Lui, il prend congé de ceux de ma maison. Vous savez, nous avons des cas très, très forts. Quand je pense à Pierre qui a tout laissé, sa barque, son travail, ses filets, tous ceux qui étaient autour d'eux, tous ceux qui dépendaient de lui pour vivre, parce qu'il était quand même un homme qui avait une petite entreprise. Quand on pense à Matthieu, entre autres, enfin, surnommé ou dit Lévi. Quand Jésus va rencontrer Matthieu, il va lui dire, viens et suis-moi, nous en avons parlé vendredi soir, viens et suis-moi. Il nous est dit que Matthieu a tout laissé sur le champ. Et il ne connaissait pas qui lui avait dit suis-moi. Parce que ça, il faut le faire. Encore quand vous suivez quelqu'un que vous connaissez. Mais là, il ne connaissait pas, naturellement. Il nous est dit qu'il laissait tout. L'appel de Dieu n'est pas incompatible avec nos obligations sociales. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas impliqué dans la vie normale. Il y a des conceptions religieuses qui font qu'à partir du moment où on rentre en religion, alors on se raferme entre quatre murs, et puis là, on n'en sort plus, et puis c'est une vie de contemplation. Non. Un chrétien, Jésus lui a dit, va et prêche la parole. Hein. C'est ce qu'on a vu pour le deuxième. Annonce le salut et le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas incompatible avec nos obligations sociales. Au contraire, parce que le témoignage, si on est entre quatre murs, personne ne l'entendra. Ce n'est pas incompatible avec nos affaires, avec notre travail, avec notre vie sentimentale ou familiale. Non, non, tout ça, ça rentre dans le même. Et de pouvoir dire, Seigneur, j'ai bien compris ton appel, mais il faut régler le problème. Dieu, avant tout, est dans le temps où il veut. Voilà. Et le temps où il veut, c'est au moment où il nous appelle. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas. Vous savez, on discute beaucoup hein, avec le Seigneur. C'est vrai que cet appel à l'obéissance, cet appel au service, cet appel peut-être au ministère, quand c'est pas toujours facile parce que il y a des tiraillements à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, il y a des tiraillements et on se sent souvent, quelquefois, incapable même. C'est peut-être justement la grande discussion. Je veux bien, Seigneur, mais attention, ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Et la réponse, nous l'avons également. Hein. Jésus nous dit bien que votre oui soit oui et que votre non soit non, parce qu'autrement, ça n'a pas trop de valeur. Dieu nous veut entièrement et pas à moitié. Ouais. Il nous est parlé des hommes dont le cœur était tout entier à Dieu, dans l'Ancien Testament. Oui, tout entier à Dieu. Alors, donne-nous, s'il te plaît, après avoir entendu et même maintenant, peut-être après des années, que notre cœur soit et demeure à 100% pour toi. Ce type d'individu, cette troisième personne, rentre dans la catégorie de ceux qu'il ne faut ni retenir comme le premier, ni pousser comme le deuxième, mais les inviter simplement à se décider seuls, parce que c'est une affaire de conscience personnelle. Vous voyez, le premier, on le retient, le deuxième, on le pousse, mais le troisième, c'est à lui de prendre la décision. Parce qu'il doit pouvoir juger de la situation. La conclusion, eh bien, c'est une réponse que Jésus va donner au troisième, mais à tous les autres. C'est une réponse qui est pleine de vérité et de bon sens. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Oui. Alors ça, c'est des pratiques que vous ne connaissez pas, moi non plus. Hein. Mettre la main à la charrue, mais on peut en deviner un peu ce que ça veut dire, parce que là-bas, c'était quelque chose, c'était une idée, une pensée qui était très courante en Israël. Hein. Les charrues et puis le travail, naturellement. Qu'est-ce que Jésus veut signifier à ses interlocuteurs ? Jésus discerne dans le caractère de ce troisième particulièrement une faiblesse de volonté. Et comme Dieu nous connaît bien, alors l'image véritablement est un enseignement. Qui veut dire que celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon et qui, tout en étant au travail, détourne la vue du travail qu'il est en train d'accomplir et qui, regarde en arrière, eh bien, à un moment ou à un autre, déviera et ne fera rien de bon. Parce que quand on veut tracer un sillon droit, il faut regarder devant. Ça, c'est clair. Autrement, votre sillon, il sera comme ça. Tout simplement. Si on regarde en arrière, c'est l'histoire de la femme de Lot. C'est l'histoire de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, ont regardé derrière et oublié finalement l'appel qui leur était adressé. Et ils se sont dit, bien voilà, c'est pas notre passé qui compte. Notre présent doit nous voir là où nous sommes et attentif à ce que nous faisons, mais nous devons regarder beaucoup plus loin. Si nous voulons que le chemin soit droit, autrement c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Jésus veut nous dire ceci, c'est qu'il en est de même de celui qui, après avoir été appelé, qui a compris l'appel, oui, compris, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, reporte ses regards, ses désirs, ses regrets, sur un passé, sur son passé, qu'il regarde en d'autres termes en arrière, au lieu de se donner sans délai et entièrement à Dieu, alors il ne peut faire que aller de droite et de gauche, et il ne pourra jamais avancer convenablement, et il n'y aura jamais de quelque chose de positif. C'est une faiblesse de volonté. C'est peut-être la manifestation d'une crainte permanente. On regarde devant. Un manque de foi, un manque de certitude et un manque d'assurance. Vous savez, les gens qui avancent bien, c'est les gens qui sont sûrs en Dieu. Les gens qui ont des assurances dans leur cœur. Les gens qui ont des convictions. Autrement, si la peur vous prend, eh bien vous allez regarder à droite, vous allez regarder à gauche. Non seulement vos yeux, mais vos oreilles. Vous allez entendre toutes sortes de choses. Et vous entendrez peut-être la voix des sirènes qui vous parlent dans votre dos. Vous allez regarder et à ce moment-là, et on n'avance pas, on ne grandit pas, on ne croit pas. Enfin, croit avec le petit chapeau, vous savez. Hein, grandir, si vous voulez. Il faut de la constance, il faut de la persévérance, et il faut qu'il y ait naturellement cette détermination volontaire de dire, eh bien Seigneur, tu m'as appelé, les choses ne sont pas faciles, c'est pas simple, mais toi qui m'as appelé, tu me donneras la force d'aller jusqu'au bout. Je te fais confiance, Seigneur. C'est ça. C'est pas plus difficile que cela, naturellement. Faiblesse de volonté chez ce troisième personnage, et vous savez, le poids de notre passé, de notre histoire que nous ne connaissions pas Jésus, notre vie, tout ce que nous avons fait en bien et en mal peut-être particulièrement, eh bien tout cela est capable de nous détourner de l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'invitation à s'élancer en avant est donnée. On tient la charrue et on trace le sillon et on va de l'avant. Et il en va de la vie de tout homme. Hier, comme d'aujourd'hui, en présence de l'Évangile, de moments décisifs qui ne reviendront peut-être jamais. Il y a des opportunités dans la vie. Il y a des choses qui sont données dans un temps particulier qu'il faut saisir au risque de tout perdre. Quand nous entendons Paul dire Jésus-Christ m'a saisi. Là, il y a quelque chose de spontané, quelque chose de soudain, hein, tout à coup, hein, qui va bouleverser la vie de l'apôtre Paul. Et il répond à ce moment-là. Il ne va pas discuter. Donc, il ne faut pas discuter quand Dieu nous appelle, parce qu'il sait très bien pourquoi il le fait. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus, et celui qui la donnera à cause de moi, eh bien, il la sauvera. Alors, est-ce que dans ces trois hommes, ils étaient vraiment décidés ? Le premier était décidé, mais attention, réfléchissons. Le deuxième pouvait être décidé, mais lui, il y a quand même des impératifs qu'il met devant le Seigneur. Non, non, on verra ça plus tard, et puis le troisième, la même chose. Alors, je crois suivre Jésus. Je vais le résumer dans cette... Tout le message, je vais le résumer tout simplement dans cette parole, simplement. S'engager avec Jésus sans regret, sans retard, sans retour, voici le triple caractère d'une obéissance sans réserve et sans jamais regarder en arrière. Alors, que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Que le Seigneur nous donne sa grâce. C'est à la fois pour ceux qui n'ont pas pris de décision, mais c'est à la fois pour ceux qui avons pris une décision en disant « Seigneur, donne-moi la force, donne-moi cette volonté, donne-moi cette détermination et surtout, Seigneur, donne-moi cette capacité de croire envers et contre tout que c'est toi qui m'as appelé et tu m'as appelé pour la vie, tu m'as appelé pour le meilleur, tu m'as appelé pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, simplement demander sa bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que tu es vivant, tu es fidèle. Merci parce que ta parole est une richesse incomparable. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as parlé ainsi. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait des engagements précipités. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait des retards lorsque tu appelles. Tu ne veux pas que nous trouvions des excuses et des prétextes lorsque tu nous sollicites, Seigneur. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous appelles à mettre la main à la charrue, c'est-à-dire à nous engager dans notre vie, et à travailler pour l'œuvre, à travailler pour ton œuvre, à travailler pour le salut des âmes. Et nous savons, Seigneur, que la bénédiction qui en découlera, ça sera la paix, ça sera la joie, ça sera l'enrichissement pour les autres, ça sera la gloire de ton nom, parce que nous savons que, eh bien, suivre Jésus, c'est le meilleur parti que nous puissions prendre. C'est la meilleure option, Seigneur, qu'un homme puisse avoir dans sa vie, puisque cette vie, Seigneur, elle se prolonge à travers, en effet, elle passe, Seigneur, dans l'éternité, et c'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur, donne-nous que notre oui reste toujours oui, s'il te plaît, Seigneur, et affermis nos cœurs dans notre volonté d'aller jusqu'au bout, en connaissance de cause, et tu nous as montré, Seigneur, eh bien, Père éternel, tout ce que cela impliquait, et nous te remercions dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen.